Bonjour et bienvenue dans l'Hebdo des jeunes reporters pour cette semaine du vendredi 5 au jeudi 11 février. Commençons au Népal où se déroulent des manifestations marxistes et maoïstes. Cette semaine après l'annonciation de la dissolution de la Chambre des députés et d'élections législatives, le Premier ministre marxiste mobilise ses partisans à Katmandou. Une manifestation qui fait guise de réponse à la manifestation visant à porter soutien à l'opposante maoïste Pushpa Kamal Dahal.
Ce vendredi 5 février, petit quiproquo sur le terrain de basket des NBA. Lors de l'affrontement entre les Nets de Brooklyn et les Raptors de Toronto, Kevin Durant, favori des Nets, a dû quitter le terrain car il avait été en contact avec une personne positive au Covid-19. Mais l'imbroglio ne s'arrête pas là, le NBA a changé d'avis à plusieurs reprises lors du match, le renvoyant sur le terrain pour finalement lui indiquer de se retirer une deuxième fois. Et décidément, c'est une bien mauvaise soirée pour le joueur américain, puisque son équipe perd le match 123 à 117, malgré les 8 points inscrits par Durant avant son exclusion.
Joe Biden promet de passer des accords avec l'Afrique, continent complètement oublié par Donald Trump lors de son mandat. Le dirigeant américain s'engage à travailler conjointement avec les nations africaines dans le cadre de la lutte contre la pandémie et contre le réchauffement climatique.
Hervé Lalin, connu sous le pseudonyme de Hervé Ryssen, est condamné ce vendredi 5 février à des peines d'amende de 3 200 € et de 10 000 euros de frais de justice dans deux dossiers pour contestation de crimes contre l'humanité et diffamation publique et provocation publique à la haine en raison de l'origine, de la race ou de la religion. L'ancien professeur d'histoire a néanmoins l'habitude de ce type de situation. En effet, il a déjà été condamné 14 fois depuis 2005, mais ce vendredi, c'est pour avoir contesté la Shoah, ainsi que pour avoir publié une vidéo antisémite dans laquelle il reprenait des thèses développées dans Mein Kampf, comme quoi les Juifs étaient responsables de massacres chrétiens lors de la Révolution russe.
Rien que ça. Passons au samedi avec Mahmoud Hussein, 54 ans, producteur pour la chaîne Qatari Al Jazeera, qui sort de 4 ans de détention provisoire en Égypte pour invitation à la sédition contre l'État et diffusion de fausses informations. Ces accusations ont vu le jour après la parution d'un documentaire où d'anciens conscrits s'expriment sur le service militaire obligatoire en Égypte.
Grande nouvelle scientifique ce samedi 6 février, le plus petit reptile du monde a été découvert à Madagascar. Cousin du caméléon, le Brookesia nana mesure 13,5 mm. Il tient sur le bout d'un doigt et est considéré comme une espèce menacée. L'animal avait en fait été découvert en 2012 lors d'une expédition menée par des scientifiques allemands et malgaches, mais ils ignoraient que les spécimens étaient déjà adultes.
Et c'est le Six Nations qui siffle son coup d'envoi avec deux matchs ce samedi. France-Italie, qui se clôture sur un score de 50 à 10 pour nos Bleus, qui se montrent d'attaque, ainsi que Écosse-Angleterre, qui voit les vice-champions du monde perdre 11 à 6. Un faux départ pour l'Angleterre et une victoire historique pour nos Écossais, qui n'avaient pas triomphé de leurs voisins depuis 38 ans. Ce match était également le 150e anniversaire de la première rencontre entre les deux équipes. Le lendemain, le Pays de Galles vainc l'Irlande 21 à 16.
Ce samedi 6 février, jour de fête pour le Tchadien Moussa Faki Mahamat, qui est réélu, bien qu'étant le seul candidat, pour un mandat de 4 ans à la tête de la Commission de l'Union africaine, avec le soutien de 51 des 54 États membres. Un beau record. Il dit sur Twitter être « profondément honoré par ce vote de confiance historique et écrasant ». Le sexagénaire est néanmoins accusé d'une culture d'harcèlement sexuel, de corruption et d'intimidation au sein de la commission par l'OGN International Crisis Group, qui s'inquiète aussi du respect du secret des votes qui ont été organisés à distance à travers Internet. Mais Mahamat dément ces accusations et se préoccupe désormais de la gestion de la crise sanitaire, de l'approvisionnement du vaccin et d'autres crises mises en suspens par le coronavirus.
Dimanche, Yoiro Mori s'excuse timidement de sa déclaration selon laquelle les femmes parlent trop pendant les réunions. L'homme est le directeur des Jeux Olympiques de Tokyo et se voit donc décerner une médaille, la médaille d'or du sexisme par Human Rights Watch. Peu de temps après, il est démis de ses fonctions.
Un peu plus de sport pour cette semaine, ce dimanche 7 février marque une deuxième victoire de 31 à 9 pour les Buccaneers face à Kansas City lors du 55e Super Bowl. C'est également une date marquante pour Tom Brady, le quarterback de 43 ans des Buccaneers, qui reçoit son 7e sacre personnel pour meilleur joueur, se plaçant au titre de légende du football américain devant les 25 000 spectateurs présents malgré le coronavirus.
Et les tensions entre l'armée et la population du Myanmar ne diminuent pas. En effet, des dizaines de milliers de manifestants ont marché sur plusieurs grandes villes du pays pour exiger la libération de Aung San Suu Kyi. Ces manifestations s'inscrivent dans un contexte de coup d'État mené par l'armée la semaine passée.
Ce dimanche 7 février, après 3 jours en Russie, Joseph Borrell, chef de la diplomatie européenne, fait part de son inquiétude face à l'attitude des autorités russes. Il annonce « L'Europe et la Russie s'éloignent l'une de l'autre ». Le motif de son déplacement était d'engager un dialogue plus constructif entre l'Union européenne et le Kremlin. Les 27 se réuniront le 22 février afin de faire un bilan sur la situation Navalny. Borrell partage sur Twitter « Il adviendra aux États membres de décider les prochaines étapes. Et oui, celles-ci pourraient inclure des sanctions. »
Communication constructive not so much. Ce lundi, pour répondre à Moscou, qui renvoie les diplomates ayant manifesté en faveur de Navalny, Berlin, Stockholm et Varsovie renvoient les diplomates russes à leur tour. Un ton froid s'installe entre l'Union européenne et la Russie.
Ce lundi 8 février, Tesla annonce qu'elle investit 1,5 milliard de dollars dans le Bitcoin et compte l'accepter comme moyen de paiement pour l'achat de ses voitures. Cette décision confirme les suspicions sur la crypto-monnaie, une devise à la fois accessible et de plus en plus popularisée, mais instable. Cet investissement a notamment causé un nouveau pic pour le cours du Bitcoin, atteignant 43 000 dollars.
Ce lundi, Tanger est inondé. Les pluies diluviennes qui s'abattent sur la ville poussent les eaux à s'infiltrer dans les sous-sols et ces eaux prennent d'assaut les ouvriers d'un atelier de textile clandestin. 24 morts sont à déplorer. Ces derniers sont reconnus comme martyrs de l'économie informelle.
Ce lundi 8 février, Joe Biden annonce une nouvelle décision qui défait encore une fois les actions de Trump. Ici désirant réintégrer le Conseil des droits de l'homme de l'ONU que l'ancien président avait quitté en juin 2018 à cause de différends sur la problématique israélienne. Anthony Blinken, chef de la diplomatie, annonce que les États-Unis doivent être présents à la table et faire usage de tout leur poids, de leur rôle de fer, de lance, en matière de diplomatie, craignant que leur absence a été utilisée à leur avantage par des pays qui ont un programme autoritaire.
Ce mardi, le directeur de Sciences Po, M. Mion, pose sa démission. Celle-ci n'arrive qu'un mois après la découverte du fait que le directeur ait été au courant des agissements pédophiles de M. Duhamel. L'école est placée sous le feu des critiques, notamment avec le hashtag #SciencesPort, qui vise à dénoncer les abus sexuels ayant lieu dans cette sphère de pouvoir.
Malheureusement, toujours sur les hashtags, Guillaume T, l'étudiant de 20 ans à l'origine du mouvement hashtag MeTooGay, dénonçant les violences homosexuelles, a été retrouvé mort ce mardi 9 février à Nanterre. Dans un message Twitter datant du jeudi 21 janvier, il dénonçait 2 responsables communistes de viol. Le Parisien annonce que, selon les premières constatations, le jeune homme qui redoublait sa première année de licence s'est pendu dans sa chambre d'étudiant. Une enquête ouverte a été lancée afin de déterminer si le suicide était lié à son tweet.
Nous parlions du médaillé d'or du sexisme. Voici notre vice-champion. Un membre de l'Assemblée nationale a insulté la députée Mathilde Panot de Poissonnière avant son discours. L'homme est puni pour son attaque sexiste déplacée.
Vous avez sûrement tous vu les affiches futuristes Arabs on Mars sur les routes d'Abu Dhabi. Eh bien, ce mardi 9 février, ces illustrations de la planète rouge ne sont plus une fiction mais bien une réalité lorsque la sonde émiratie Al-Amal, ou Espoir en français, se place en orbite autour de Mars, étape la plus critique de l'opération spatiale. Cette sonde a pour but de fournir une image complète de la dynamique de la température dans l'atmosphère de Mars et a été rejointe par la sonde chinoise Tianwen 1, le lendemain, qui devrait faire atterrir un robot téléguidé sur Mars dans 3 ou 4 mois.
La Corée du Nord est accusée d'avoir volé plus de 300 millions de dollars en crypto-monnaie, dans un rapport confidentiel de l'ONU. Le vol aurait eu lieu en 2019-2020 et aurait pour but de financer leur programme nucléaire et balistique. Comme quoi, cette forme de monnaie n'est pas si fiable et si stable que ça.
Et ce n'est pas un conte qui s'achève pour Lujan Al Atloul, une militante féministe saoudienne, libérée ce mercredi 10 février après avoir passé 1001 jours en prison pour diverses activités prohibées par la loi antiterroriste. La communauté internationale félicite cette libération. Joe Biden déclare « Elle était une importante militante des droits des femmes et la libérer était la chose à faire ».
La Croix-Rouge éthiopienne indique que la région du Tigré, frappée par de récents massacres, ne serait accessible qu'à 20%. 80% du territoire n'est donc pas à la portée des aides humanitaires.
L'actrice Gina Carano, qui incarnait un soldat de l'Alliance rebelle dans la série The Mandalorian, est renvoyée par Lucasfilm après avoir tenu des propos racistes sur les réseaux sociaux. Un porte-parole de la compagnie annonce « Ces publications sur les réseaux sociaux dénigrant les gens sur la base de leur identité culturelle et religieuse sont odieuses et inacceptables. » En effet, dans une vidéo publiée sur son compte Instagram, elle comparait le fait d'appartenir au parti républicain au fait d'être juif durant la Shoah. En août, elle s'était également moquée de la communauté transgenre, puis en novembre, elle démentait les recommandations sanitaires imposées par le gouvernement, notamment le port du masque.
Passons alors au jeudi 11 février et arrêtons-nous en Chine où la BBC a vu ses droits de diffusion suspendus. L'État chinois déclare que les informations doivent être vérifiées et justes et ne doivent pas porter préjudice aux intérêts nationaux de la Chine. La combinaison des deux semble complexe, voire même impossible. Cette nouvelle restriction paraît à la suite de la diffusion d'un documentaire sur la traite des Ouïghours.
Ce jeudi 11 février, le président français a annoncé qu'il instaurerait le concours Talent pour permettre aux jeunes issus de milieux défavorisés d'accéder à des positions de la haute fonction publique. Les établissements offrant ces formations ouvriront donc une voie réservée pour les jeunes issus de classes préparatoires, mais reste tout de même symbolique.
Benjamin Orestrein, l'un des derniers survivants de la Shoah, est décédé ce jeudi 11 février à Lyon. L'homme a survécu au camp de Lenisau, de Auschwitz et de Dora.
C'était Zachary Pénès et Marie Hart pour la radio des jeunes reporters. À la semaine prochaine.